Chers frères et sœurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver en ce quatrième jour de notre neuvaine. Laissons résonner encore en nous ces paroles consolantes de la plus ancienne prière à Marie. Sous l'abri de votre miséricorde, nous nous réfugions. Sainte Mère de Dieu, hier, nous contemplions Marie comme refuge et protectrice en méditant sur le don du Saint-Scapulaire, ce geste maternel par lequel notre Mère offre à tous ceux et celles qui le désirent de participer au trésor spirituel du Carmel. Le scapulaire est le signe discret mais puissant de notre confiance en la sollicitude de Marie. Marie, l'Immaculée, Mère du Carmel, porte du ciel, Notre-Dame des Victoires, couvre ses enfants d'un amour chaste et virginal. Avec la petite Thérèse et sa première poésie mariale, nous avons compris que le scapulaire prolonge le voile virginal de Marie, ce voile qui enveloppe Jésus lorsqu'elle lui donne le sein. Sous ce voile, comme sous le scapulaire, Thérèse contemple l'union la plus douce, la plus intime entre Marie et son Fils. Et nous aussi, il nous est donné de demeurer dans cette proximité unique, dans cette communion où Marie nous conduit vers Jésus et nous fait participer à sa propre relation avec lui. C'est l'un des motifs profonds de notre présence ce soir dans cette basilique dédiée à Notre-Dame des Victoires où nous venons contempler humblement et avec confiance ce lien vivant qui unit la Mère et son divin Fils. La vie tout entière de Marie est orientée vers la révélation de Jésus, vrai Dieu et vrai homme. Et lorsque l'Église adresse un culte à la Vierge Mère, c'est pour être conduite à la source de la grâce qu'est Jésus, le Verbe fait chair. Cette Mère Immaculée nous conduit à Jésus, et qui, d'ailleurs mieux qu'elle, peut le faire. L'amour du Christ se vit dans la confiance en la Vierge Marie. Voyons dans l'Évangile selon saint Jean les deux passages, celui des noces de Cana et celui de Marie au pied de la croix, qui expriment cette relation unique. Aux noces de Cana, Marie se tient discrètement, mais son regard est vigilant. Elle voit ce que les autres ne remarquent pas encore. Le vin manque. La joie risque de s'étioler. Elle ne détourne pas les yeux de la pauvreté humaine, mais l'offre à son Fils. Sa parole est simple, presque une prière. Ils n'ont plus de vin. En elle, nous découvrons la compassion maternelle qui devance nos besoins et les confie à Jésus. Ce dialogue entre Marie et Jésus révèlent leur intimité unique. Marie n'impose rien, elle suggère avec confiance. Jésus, en répondant, inaugure son heure, celle des signes qui manifestent la gloire de Dieu. Marie est ainsi le seuil de la mission publique de son Fils. Elle ouvre la porte, mais c'est lui qui accomplit. Marie se tourne ensuite vers les serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Nous contemplons ici le cœur même de l'intercession maternelle de Marie. La Vierge nous conduit sans cesse à son Fils, nous apprend à écouter sa voix, à nous laisser façonner par sa parole et à lui obéir. Même lorsque ces demandes nous paraissent, dans un premier temps, déroutantes. remplir des jarres d'eau en pleine fête. Et pourtant, c'est dans cette confiance humble que jaillit le vin nouveau, surabondant, signe de la présence déjà offerte du royaume des cieux. Saint Jean nous dit que, voyant ce signe, les disciples crurent en lui. Leur foi naît de l'obéissance et de la confiance, comme celle d'ailleurs des serviteurs. Marie, par sa parole, les a conduits à cette expérience. Ainsi, la foi des apôtres devient le modèle de la nôtre, une foi qui ne s'appuie pas sur des calculs humains, mais sur la confiance en la parole de Jésus. Aussi, dans l'évangile de Jean, tout converge vers l'heure, celle où le Fils manifeste pleinement sa gloire par l'humiliation de la croix. À Cana, Jésus avait dit à sa mère : « Mon heure n'est pas encore venue. » Au calvaire, cette heure est arrivée. Et Marie est là, debout, dans une posture de fidélité et de foi. Elle est la Stabat Mater Dolorosa. Elle est debout, la mère des douleurs. Elle ne parle pas, mais sa présence est comme une théophanie contemplative et silencieuse. Marie participe à l'offrande de son fils, non par des gestes extérieurs, mais par l'union intérieure de son cœur transpercé. Et lorsque Jésus dit à Marie : « Femme, voici ton fils », et aux disciples : « Voici ta mère », Marie est instituée mère de l'Église. Jean, le disciple bien-aimé, est le modèle de tout croyant qui reçoit Marie comme mère. La croix est le lieu où naît l'Église et Marie en est la mère. Marie est inséparable de l'œuvre rédemptrice de son Fils. Elle n'est pas rédemptrice à la place de Jésus, mais elle est associée à son sacrifice par une communion unique. Comme Ève se tenait au pied de l'arbre de la connaissance, Marie se tient au pied de l'arbre de la croix, de la sagesse divine. Marie est la nouvelle Ève, mère des vivants, qui accueille dans son sein l'humanité réconciliée. La théologie mariale voit ici le sommet de sa coopération au salut. Non pas une action parallèle, mais une participation dans la foi et l'amour. Accueillir Marie, c'est entrer dans la pédagogie de la foi que Jésus nous offre. Marie nous apprend à croire dans la souffrance ou la nuit, à rester debout dans l'épreuve ou la douleur, et à ne pas fuir devant la croix. La foi des apôtres, qui a vacillé, trouve dans la fidélité silencieuse de Jean un modèle de constance et d'amour. Notre foi est appelée à cette même fidélité, mais pour ce faire, il nous faut accueillir et écouter Marie. Durant notre vie terrestre, la Vierge se tient prête à nous assister dans les difficultés quotidiennes et d'une manière éminente dans notre vie chrétienne. Vivre en chrétien dans ce monde paganisé réclame le soutien et l'aide maternelle de la Reine du Ciel. Elle est notre Père, elle est notre Mère qui prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Notre vie sur la terre est un temps de tentation où le bien doit triompher sur le mal, où nos bonnes actions doivent triompher sur le péché, où la grâce de notre baptême doit s'épanouir. Prenons conscience de la richesse de la grâce détenue dans la confiance à Marie. Elle est cette mère toute aimable qui nous apprend à aimer. Si nous vivons dans sa bienheureuse compagnie, dans une foi s'appuyant sur la sienne, elle nous conduira auprès de son Fils à l'heure décisive et nous jouirons de sa maternelle tendresse. Cette confiance en Marie nous révèle quel est le refuge qui oriente toute notre vie vers le Christ. Cet acte de foi, cette adhésion totale de notre cœur et de notre intelligence traverse les siècles. D'âge en âge, Marie marche avec l'Église pèlerine, présence maternelle et silencieuse qui soutient, console et enseigne à espérer contre toute espérance. Vierge de l'Annonciation, elle a cru à l'impensable. Voici la servante du Seigneur, que tout se passe pour moi selon ta parole. Elle a cru que l'Esprit Saint la couvrirait de son ombre, que le Fils de Dieu assumerait la nature humaine dans la personne de Jésus, Dieu sauve, Dieu sauveur. Dans sa foi et par sa foi, elle a engendré le Verbe sur la terre sans connaître d'homme, devenant ainsi la mère du Sauveur et en lui notre mère. C'est pourquoi l'Église, depuis les temps les plus anciens, l'honore d'un culte unique, mais ce culte n'est ni adoration ni idolâtrie, mais la reconnaissance filiale du lien indissoluble entre la mère et Jésus, son Fils. Comme l'exprime saint Jean-Paul II dans son encyclique Redemptoris Mater, Marie est le modèle parfait, le cœur battant de l'espérance qui ne déçoit jamais, car l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Dès l'aube de l'Église, elle est là, au Cénacle, unie aux apôtres, dans l'attente fervente de l'Esprit promis. Élisabeth l'avait proclamé, bienheureuse celle qui a cru en l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. Dès le Concile d'Éphèse, en 431, elle est saluée comme Théotokos, mère de Dieu. Sous sa protection, les fidèles se réfugient en elle avec toute leur détresse. Vierge et mère, Marie demeure pour toujours l'icône de l'Église. L'Église, comme elle, est appelée à être à la fois mère, en engendrant les âmes à la vie de la grâce, et vierge, en gardant intact son corps saint et immaculé. Ainsi, en contemplant Marie, l'Église se reconnaît elle-même et apprend à vivre dans la foi, l'espérance et la charité. L'Église est la gardienne fidèle de la révélation divine et proclame avec saint Paul l'unique vérité salvifique. Il n'y a qu'un seul Dieu, et il n'y a aussi qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes, un homme, le Christ Jésus, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. Cette affirmation éclaire notre foi. Jésus, le Fils incarné, est le pont vivant entre le Père et l'humanité pécheresse, offrant sa vie sur la croix pour nous racheter. Nul autre ne peut revendiquer ce rôle divin. Jésus est l'alpha et l'oméga de notre humanité. Et dans la tendresse du plan divin, Marie, la mère du Rédempteur, exerce un rôle maternel qui, loin d'obscurcir cette unique médiation du Christ, en révèle la toute-puissance. Il naît de l'amour gratuit de Dieu, jaillit de la surabondance des mérites de Jésus. Marie, la pleine de grâce, ne s'interpose pas entre nous et le Sauveur. Au contraire, elle nous conduit à lui, comme à Cana, où elle murmure « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cette influence salutaire de la bienheureuse Vierge Marie est un don pur de la Providence. Elle dépend totalement du Christ, roi et grand prêtre éternel, et favorise notre union intime avec lui. Loin d'entraver la relation directe des croyants au Christ et Seigneur, Marie l'encourage, comme une mère guide ses enfants vers le Père. Ainsi, en invoquant Marie, nous honorons le mystère de l'incarnation et approfondissons notre communion eucharistique avec le Christ. En se réfugiant en Marie, l'Église trouve le chemin de l'espérance. Nous contemplons en elle la nouvelle Ève qui triomphe du mal par la grâce de son fiat. Pour bien le comprendre, demandons à petite Thérèse de nous éclairer sur ce lien intime qui unit Jésus à Marie. Thérèse se tient près de la croix comme l'épouse qui veut donner à boire à son bien-aimé. Et c'est alors qu'elle devient mère par la fécondité virginale du sang rédempteur qu'elle recueille. Elle raconte comment Jésus lui donne comme premier enfant le criminel Pranzini. C'est une des pages les plus belles et les plus fortes sur l'espérance en la miséricorde. Ce criminel, condamné à mort, est sur le point de mourir dans l'impénitence. Thérèse a conscience de l'extrême danger où il se trouve, mais en même temps, elle ne peut se résigner à la perte de ce frère pour qui le Christ est mort. Je voulus à tout prix l'empêcher de tomber en enfer, écrit-elle. L'unique prix est celui du sang de Jésus. Thérèse fait célébrer la messe pour lui. Elle exprime la certitude de son salut de façon absolue. Même s'il ne se confessait pas et ne donnait aucune marque de repentir, tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus. Avant d'être exécuté, Pranzini embrassa le crucifix que lui présente l'aumônier de la prison. Ce simple signe ramène Thérèse à son point de départ, qui était la contemplation de Jésus crucifié. N'était-ce pas devant les plaies de Jésus, en voyant couler son sang divin, que la soif des âmes était entrée dans mon cœur? Je voulais leur donner à boire ce sang immaculé qui devait les purifier de leur souillure, et les lèvres de mon premier enfant allèrent se coller sur les plaies sacrées. Quelle réponse ineffablement douce! Ah, depuis cette grâce unique, mon désir de sauver les âmes grandit chaque jour. Il me semblait entendre Jésus me dire, comme à la Samaritaine, « Donne-moi à boire ». C'était un véritable échange d'amour. Aux âmes, je donnai le sang de Jésus. À Jésus, j'offrais ces mêmes âmes rafraîchies par sa rosée divine. Jésus a donc donné à Thérèse comme premier enfant le plus misérable pécheur, celui qui, à vue humaine, était un cas désespéré. Pour lui, une jeune fille a espéré contre toute espérance, dans toute la force de son amour d'épouse et de mère. Cette expérience est fondamentale, fondatrice. Thérèse exprimera son désir de sauver les âmes qui sont sur la terre, les âmes et pas seulement des âmes. Elle osera même faire cette prière. Jésus, fais que je sauve beaucoup d'âmes, qu'aujourd'hui il n'en ait aucune, qu'il n'en ait pas une seule de damnée. Et c'est finalement avec la même confiance que dans sa grande épreuve contre la foi, elle intercédera pour les athées et les ennemis de l'Église. En tout cela, Thérèse est singulièrement proche de Marie, mère de tous les hommes rachetés par le sang de Jésus, mère de miséricorde et refuge des pécheurs. La dimension profondément mariale de cette expérience de Thérèse peut être explicitée à la lumière de sa pièce de théâtre sur la fuite en Égypte, écrite immédiatement après le manuscrit A. C'est l'œuvre de Thérèse la plus éclairante sur le mystère de la maternité dans le dialogue imaginé entre Marie, la mère de Jésus, et Susanna, la mère de Dismas, le futur bon larron de l'Évangile. Cette histoire inventée est une merveilleuse parabole de l'amour maternel d'une vierge. Marie, la toute sainte, a un cœur de mère. Mais cette pauvre femme païenne, Susanna, a elle aussi un cœur de mère, un cœur capable d'accueillir l'enfant sauveur et d'obtenir le salut de son enfant. Cette pièce de théâtre nous relate que le petit Dismas était lépreux et qu'il a été miraculeusement guéri lorsque, à la demande de Marie, Susanna l'a baigné dans l'eau qui avait servi à laver l'enfant Jésus. Une discrète allusion à l'eau du baptême. Susanna dit alors à Marie sa crainte concernant le salut de son enfant, prévoyant qu'il deviendra, comme son père, un bandit. La réponse de Marie, qui est le sommet de toute cette pièce de théâtre, correspond exactement à ce que Thérèse a vécu par rapport à Pranzini. Écoutons la réplique que Thérèse met sur les lèvres de Marie. Ayez confiance en la miséricorde infinie du bon Dieu. Elle est assez grande pour effacer les plus grands crimes lorsqu'elle trouve un cœur de mère qui met en elle toute sa confiance. Jésus ne désire pas la mort du pécheur, mais qu'il se convertisse et qu'il vive éternellement. Cet enfant qui, sans effort, vient de guérir votre fils de la lèpre, le guérira un jour d'une lèpre bien plus dangereuse. Alors, un simple bain ne suffira plus. Il faudra que Dismas soit lavé dans le sang du Rédempteur. Jésus mourra pour donner la vie à Dismas, et celui-ci entrera le même jour que le Fils de Dieu dans son royaume céleste. Effectivement, Marie sera là près de la croix, recueillant par sa prière le sang de Jésus. Elle le répandra sur Dismas, sur tous les pécheurs, sur tous les hommes et femmes qui deviendront alors ses enfants. Cette pièce de théâtre, lue en écho avec la conversion de Pranzini, révèle une inépuisable profondeur de la miséricorde de Jésus et l'intercession de Marie. Thérèse avait espéré pour le criminel, sur le point de mourir dans l'impénitence. Elle avait espéré avec tout son cœur de mère pour ce premier enfant que le Rédempteur lui confiait en lui demandant de le laver dans son sang. Mystérieusement, elle avait déjà entendu au fond de son propre cœur de mère l'exhortation de Marie, expression de la profondeur de son cœur maternel. Ayez confiance en la miséricorde infinie du bon Dieu. Elle avait partagé toute la force de son espérance maternelle. Tant j'avais de confiance en la miséricorde infinie de Jésus, dira-t-elle. Ces deux textes nous donnent la plus vive lumière sur le mystère de la puissance de la prière d'intercession de Marie, de Thérèse, du mystère de la communion des saints. Cette intercession n'est pas une co-rédemption, car le salut de l'homme pécheur, qui vient uniquement de la miséricorde infinie donnée dans le sang du Rédempteur qu'est Jésus, mais appelle cette bouleversante coopération dans la puissance d'intercession. En effet, le pape François a clairement exprimé sa position contre l'utilisation du titre de Marie qui serait co-rédemptrice, alléguant que Marie n'a jamais voulu prendre pour elle quelque chose de son Fils et ne s'est jamais présentée comme co-rédemptrice, non, disciple. L'œuvre rédemptrice a été parfaite et n'a besoin d'aucun ajout. C'est pourquoi la Vierge n'a voulu obtenir aucun titre de Jésus. Elle n'a pas demandé d'être elle-même une quasi-rédemptrice ou une co-rédemptrice, non. Il n'y a qu'un seul Rédempteur, et ce titre ne se dédouble pas. Le Christ est l'unique Rédempteur. Il n'y a pas de co-rédempteur avec le Christ, parce que le sacrifice de la croix, offert avec un cœur aimant et obéissant, présente une satisfaction surabondante et infinie. Terminons avec Thérèse. Pour elle, se réfugier en la Vierge, c'est vivre la petite voie de la confiance et l'abandon. Et le scapulaire qu'elle chérit est un signe de protection dans les tentations où le bien triomphe dans la faiblesse offerte. Pour elle, l'Immaculée, la Mère aimable, enseigne la conversion par l'amour confiant. Ensemble, faisons monter cette prière. Ô Marie, Mère et Vierge Immaculée, refuge des pécheurs, toi qui as cru, toi qui as espéré, toi qui as aimé jusqu'au pied de la croix, enseigne-nous à porter Jésus dans nos vies, à attendre l'Esprit avec confiance, à marcher dans le pèlerinage de la foi, sans jamais douter de la victoire de ton Fils. Enseigne-nous la confiance qui vainc la mort. En ce quatrième jour, nous nous réfugions en toi. Marie, Mère de Dieu, conduis-nous à Jésus, la source de toute grâce. Que cette neuvaine nous prépare au 8 décembre où ton immaculée conception rayonne comme une étoile d'espérance. Amen.